De longues années de travail en commun, j'ai pensé, d'accord avec quelques amis, que le moment était venu de le diffuser plus largement. Et je remercie ceux qui m'aident à le faire. En effet, notre civilisation approche d'un tournant, conséquence du cycle de la précession des équinoxes, bien connu des Grecs comme des Égyptiens. Ce cycle de 26 000 ans, je ne m'appesantirai pas sur les causes astronomiques du déplacement du point vernal, entraîne tous les 2160 ans, 26 000 divisé par 12 secteurs zodiacaux, un changement total dans l'orientation des civilisations habitant la planète Terre en créant une nouvelle ère. Celles-ci furent déjà nombreuses dans l'histoire du passé de notre planète. La dernière en date, celle des poissons, succédant à celle du taureau et du bélier, débuta il y a quelque 2000 ans sous les auspices christiques. Ce fut une ère marquée par la dualité et de durs affrontements. Actuellement, elle s'achève pour laisser place vers 2010-2020 à l'ère du Verseau, qui, elle, symbolisera la synthèse de cette dualité. Occident et Orient, matière et esprit, science et religion retrouveront alors leur unité première. Mais actuellement, assis entre deux chaises, nous vivons dans la confusion précédant les affres de cet enfantement. Là aussi, des cycles astronomiques sont en cause qui ne relèvent pas de cette introduction. Certains précurseurs surgissent de par le monde, qu'ils soient scientifiques ou philosophes, annonciateurs de ces temps nouveaux. Car à chacun de ces changements d'air, toutes les structures, sclérosées par le temps et l'usage qu'en firent les hommes, furent remises en question lorsqu'elles ne s'écroulaient pas d'elles-mêmes. Les Égyptiens reconstruisaient leurs temples suivant des coordonnées nouvelles accordées au symbolisme de ces temps qui surgissaient. Connaissant ces lois profondes, il importe donc que nous, hommes de cette fin du XXe siècle, de la fin de cette ère, nous fassions une sorte de récapitulation du passé pour laisser place nette aux orientations nouvelles de la pensée et de la vie, adaptée au symbolisme d'une expérience qui devra être vécue par nos successeurs. Charles Vouga, en tant que Verseau, se trouve être parmi ses précurseurs et son message est d'une vivante actualité. Dans la dernière conférence qu'il donna à Lausanne en 1963, quelques jours avant sa mort, c'est aux jeunes qu'il s'adressa plus précisément, à ces jeunes qui iront à bâtir ce monde et cet ordre nouveau. Quelle plus exaltante perspective peut-on leur offrir alors que plus rien ne semble solliciter leur élan que de devenir lucides et conscients sur le rôle capital qu'ils auront à jouer en ce tournant de l'histoire. Nous donnerons donc tout d'abord ce message. Mais il importe de le replacer dans le contexte de la guerre du Vietnam, qui sévissait alors, où moururent tant de jeunes hommes. Même s'il paraît dur à ceux élevés dans notre Occident encore préservé, il n'est pas exclu qu'un jour ils naissent à se souvenir du symbolisme qu'il a inclus par-delà la dureté des mots. J'ai également choisi parmi d'autres conférences plus techniques, celles initiant à l'astrologie et ensuite à la fonction et rôle intense que jouent dans notre psyché les grandes planètes du collectif Uranus, Neptune et Pluton. Suivant l'écho que ces conférences provoqueront, nous verrons en diffuser d'autres. Au début de 1979, un livre paraîtra dans la série Gnose, édition du Rocher, approche d'une astrologie ésotérique, groupant un ensemble des conférences de Charles Vouga sur les différentes planètes du système solaire, source d'une incomparable richesse. J'ai moi-même écrit, pour ceux qui souhaitent s'initier plus directement à la technique astrologique, « Comment comprendre notre horoscope », paru dans cette même série Gnose. Maintenant, je vais laisser la parole à Charles Vouga, souhaitant vivement que par la vibration de sa voix vous parvienne le message qu'il était venu nous apporter. L'homme est ignorant des lois universelles, et son ignorance est la cause de ses souffrances. Seule la connaissance de ces lois peut le libérer, et l'astrologie est la plus haute définition de la loi cosmique par rapport à l'individu.
À cet élément que je m'adresse. En me disant toujours que si les jeunes peuvent découvrir ce que l'astrologie leur propose et leur donne à la condition qu'ils cherchent, ils trouveront une réponse au plus grave problème de leur nature, la force de subir les épreuves inévitables de la vie, parce qu'ils en comprendront la signification. Dans l'usage courant, les jeunes le savent encore mieux que les aînés, lorsqu'on est frappé par un grand chagrin, un chagrin dramatique, déchirant, les arguments pour l'expliquer, sinon le justifier, pour vous fortifier, sont assez maigres, terriblement maigres. Mais c'est une des raisons du drame de notre jeunesse, c'est que ceux d'entre eux qui sont vraiment intelligents, et ils ont là, sont très intelligents. Eh bien, je leur dis à cette jeunesse, par une expérience. J'ai travaillé avec toute assiduité et à laquelle j'ai donné mon âme parce que j'ai découvert qu'elle était vraie et que là s'ouvraient pour nous tous les horizons de la philosophie propre à l'homme et toute la religion. Et par conséquent, les rêves. Toujours agréable, mais quand on sait vraiment pourquoi une chose arrive, on est déjà armé. Le plus terrible, c'est d'être condamné à mort et fusillé à 5 heures du matin sans jamais savoir pourquoi. Alors ça, ça arrive avec un petit champ. Bien, je voudrais bien que mon propos ce soir aide quelques personnes parmi les jeunes qui vont être fusillés de savoir pourquoi, de le savoir, et ils seront étonnés de la force d'exaltation que ça leur apporte. L'astrologie n'est pas ce que l'on pense du tout. L'astrologie, ce n'est pas l'influence des planètes sur l'homme. C'est pas du tout. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout une sorte d'astrophysique à réaction chimique, biochimique et que sais-je encore par la voie de la corporalité entrant dans le comportement cérébral. C'est pas du tout. Il y a plusieurs astrologies, mes amis. C'est regrettable, mais c'est nécessaire. C'est naturel à l'historique
même de la découverte scientifique. Il y a plusieurs écoles de médecine, il y en a eu en tout cas, elles tendent de plus en plus à s'unir et à se codifier. Il y a certaines branches de la connaissance où il n'y a presque pas de divergence entre les grands chercheurs de tous les pays. Mais dans l'astrologie, nous avons des divergences en profil. Il y a différentes astrologies. La mienne n'est pas l'astrologie de certains autres. Et certains autres n'est certainement pas la mienne. Et entre eux-mêmes, il y a des divergences formidables également. Le seul point de ralliement de nous tous, c'est que nous sentons, je ne dis pas que nous savons, que nous l'explicitons, mais nous sentons une solidarité intime entre l'homme, sa Terre, mais ça serait encore assez simple, sa Terre, mais le système solaire dont sa Terre, planète Terre, fait partie. Ce sentiment de solidarité d'un cosmos lui-même relativement réduit, bien qu'immense pour nous, qui s'appelle le système solaire. Nous avons tout ça en commun entre astrologues. C'est une impression qui nous commande, qui nous fait toujours revenir à notre objet, c'est que nous sommes indéniablement dans un état d'étroite solidarité, beaucoup plus complexe que l'astrophysique ordinaire, l'astronomie ordinaire, pourrait s'imaginer. Beaucoup plus profond, mais quant à savoir la nature de cette solidarité, alors, et les disciplines différentes par lesquelles on va découvrir les formules exactes de cette solidarité entre l'homme et le système solaire, là commencent les divergences des écoles d'astrologie. C'est là. Nous avons encore des écoles qui marchent avec la théorie influentielle. L'extérieur frappant l'homme. Cette école est déjà largement dépassée. Elle ne pourra pas résister à la critique. C'est simplement une façon encore superficielle, nécessaire au début de commencer. Il n'est pas neuf dans notre 20e siècle de dire, peut-être dans certains esprits en tout cas, que l'homme lui-même est un soleil et que lui-même est un système solaire. C'est une grande découverte pour la plupart des gens. C'est une formidable découverte pour la masse. Quelques esprits en ont été avertis déjà. Je ne parle pas naturellement des clans spéciaux des ésotéristes à travers les siècles, mais je parle du 19e siècle qui n'a certainement pas fait. Dans nos pays, certainement pas, et je parle de notre 20e siècle. En somme, en réalité, on peut dire, en réalité, que la découverte que vous êtes un système solaire analogue au système solaire dont notre Terre fait partie, c'est une découverte formidable. Ça l'a été pour moi. Vous ne pouvez pas y croire. Donc, ça a été une découverte totale, et je fais cette découverte encore tous les jours. Par conséquent, je n'y parle pas encore complètement. Autrement, ce ne serait pas une découverte. Enfin, de quoi j'en ai la preuve. Vous êtes un système solaire, chacun de vous. Maintenant, nous entrons dans une autre attitude, enfin, une autre condition de l'esprit de l'homme. J'ai parlé à Thomas Mann en Amérique durant les années de la guerre. Je m'honorais de son amitié, le grand écrivain allemand qui vient de mourir. Bien, Thomas Mann, un jour, me dit, certainement, il doit y avoir quelque chose dans l'astrologie. Parce que j'ai toujours été convaincu de la solidarité de l'univers. Et il n'allait pas plus loin que ça. Ça a resté là. Demandez à quelqu'un s'il croit qu'il est un système solaire, il vous dira, mais bien sûr que c'est un système solaire. Mais oui, je comprends ça très bien, ça me va très bien, je comprends ça très bien. Oui, mais alors demandez-lui maintenant, comment son système solaire s'embraye sur les autres? Comment son système solaire va s'accrocher au grand système solaire? Comment ça va jouer? Quel est son espace vital? Et surtout, quel est son temps, c'est-à-dire son cycle? Et quel est son espace? Alors là, il nage. Si vous voulez savoir exactement ce qu'on appelle une nébuleuse, vous n'avez qu'à attendre les explications qu'il va vous donner pour expliquer sa position en tant que système solaire, dans le système solaire général. Alors, à ce moment-là, ça aura du caractère. Or, mes amis, en bref, et ce sera tout mon effort, et ce sera toute ma vie mon effort, tant que je serai capable d'enseigner l'astrologie. Tout l'effort de l'astrologie elle-même, alors, n'est-ce pas ? Ce n'est pas de vous simplement vous prouver que vous êtes un système solaire, mais de savoir comment il s'embraye sur le grand système. Là, comment la démultiplication des temps, autrement dit des vitesses, peut se faire entre votre mouvement à vous, d'horloge de tous vos astres, vos électrons et vos noyaux. Comment ce mouvement-là qui est là, en vous-même, mais comment il s'accorde au grand mouvement des astres célestes, de notre système. C'est là l'astrologie. Elle commence seulement à ce moment-là. On voit que c'est quelque chose de colossal. Et s'il y a des discussions entre astrologues, et Dieu sait qu'il y en a, je veux dire des divergences de vie, c'est quand la façon de concevoir cet accrochage, disons cet embryon, cette prise de contact et ce jeu des uns sur les autres. En bref, l'astrologie marche définitivement à ceci, à cette chose, alors que presque personne, sauf les astrologues, et encore d'une certaine école, ont découvert, c'est que le mouvement des astres de notre système individuel correspond au mouvement des arts du système général, qui est le prototype. Au mouvement de la planète Vénus, Mars et compagnie, Pluton et compagnie, ce mouvement-là trouve son analogue dans le temps humain. Exactement. C'est une loi, non pas de cause et d'effet. Le ciel n'est pas causal. Nous ne sommes pas causal. C'est une loi de rapport. C'est une loi de coaction, c'est une loi de co-réponse, de correspondance. Le mystère formidable de la vie, on le saisit là réellement, dans cette correspondance effarante, mais effarante. Cette chose qui est au fond de vous, dont vous n'avez pas la moindre conscience. Il a fallu que l'astrologie soit trouvée pour vous la donner, cette conscience. C'est que quand Vénus passe dans le lion, dans le transit céleste du lion, la nôtre y est aussi. Nous ne le savions pas. L'âme de nous le savait, mais le conscient humain incarné ne le savait pas. Nous savons que Pluton, dans le ciel, et pour le zodiaque de la Terre, se trouvait premier degré de la Vierge. Nous envoyons les dégâts dans les thèmes individuels. Donc c'est notre Pluton personnel qui est là dans ce premier degré de la Vierge. La planète du ciel est à 3000 ou 4000 millions de kilomètres du Soleil. La nôtre est à proportionnellement à 4 millions de kilomètres de notre Soleil, au centre de notre croix. Et pourtant, il est là, et ça fait partie de nous-mêmes, de notre vie quotidienne. Et de penser à ce mouvement qui se fait de nos astres avec cet accord avec le système solaire, cette concordance des temps à la seconde, de sorte que où est la lune dans le ciel maintenant, nos lunes sont là aussi, mais nous ne savons pas. Cette exploration des profondeurs de vous-même, qui fait que l'astrologie n'est pas du tout du domaine des disciplines scientifiques et de l'intelligence du cerveau. C'est une intelligence prospectrice de l'extérieur du monde. Et c'est parti de la croix de l'incarnation.